aussi séante à son sexe qu'à sa naissance, la chevalière n'en persistait pas moins à préférer s'empaqueter de mailles et de cuir bouilli, taille sanglée par un ceinturon. Certes, elle aurait été plus heureuse de partir guerroyer botte à botte avec les autres, mais il fallait bien des épées pour tenir Vivzeg, tout puissant qu'en étaient les remparts. Edmure avait emmené au guet tous les hommes valides, ne laissant sous les ordres de Sir Desmond Grell qu'une garnison composée de blessés, de vétérans, de malades, ainsi que d'une poignée d'écuyers et de petits rustres à peine pubères et sans expérience des armes. Ce pour défendre un château bondé de marmailles et de bonnes femmes. Une fois que le dernier fantassin se fut engouffré sous la herse, Brienne demanda « Et maintenant, madame, qu'allons-nous faire ?»« Notre devoir. » Les traits crispés, elle entreprit de retraverser la cour. « J'ai toujours fait mon devoir, » songeait-elle. De là venait peut-être la prédilection que lui avait invariablement marquée père. La mort au berceau de ses deux frères aînés avait fait d'elle, jusqu'à la naissance d'Edmure, autant le fils que la fille de Lord Auster. Et après la disparition de mère, le rôle de dame de Vivzeg lui était échu, qu'elle avait assumé de même. Enfin, lorsque père l'avait promise à Brandon Stark, elle avait exprimé toute la gratitude que méritait le choix d'un parti si brillant. « Brandon reçut de moi le droit de porter mes couleurs, » se remémora-t-elle. « Et Pétir, aucune consolation de ma part après sa blessure, ni le moindre adieu lors de son renvoi. Et lorsqu'après le meurtre de Brandon, je me vis enjoindre d'épouser son frère, je m'inclinais de bonne grâce, tout inconnu qu'il m'était avant le jour même des noces. Et c'est à cet étranger compassé que, toujours par devoir, je donnais ma virginité, avant de le laisser rejoindre et sa guerre et son roi, et la femme qui portait déjà son bâtard. Par devoir, toujours. Ses pas la guidaient vers le septuaire. Situé au sein des jardins de mer et chatoyant d'irisation, le temple heptagonal était comble quand elle y pénétra. Son besoin de prier n'était partagé que par trop de gens. Elle s'agenouilla devant l'effigie de marbre polychrome du guerrier et alluma deux cierges odorants, l'un pour Edmure, le second pour Rob, là-bas, par-delà les collines. « Préserve-les. « Aide-les à vaincre, » implora-t-elle, « procure la paix aux âmes des morts et le réconfort à ceux qu'elle abandonne ici-bas. » L'entrée du septon, munie du cristal et de l'encensoir, la surprit dans ses oraisons et l'incita à suivre l'office. À peu près de l'âge d'Edmure et d'aspect austère, ce religieux qu'elle ne connaissait pas célébrait avec l'onction requise, et il entonna les laudes d'une voix chaude et flexible. Mais la nostalgie des chevrotements ténus de Septon Osmind, mort depuis longtemps, envahit Kathleen. Osmind aurait écouté patiemment le récit de ce qu'elle avait vu, ressenti sous le pavillon de Renly. Peut-être même aurait-il su lui expliquer ce que tout cela signifiait, lui indiquer comment conjurer les ombres qui arpentaient ses rêves. Osmind, père, Oncle Brinden, le vieux maître Kim, eux semblaient toujours tout savoir, mais maintenant que me voici réduite à moi-même, j'ai l'impression de ne rien savoir, pas même ce que je dois faire. Comment accomplir mon devoir quand j'ignore en quoi il consiste? Au moment de se relever, l'ankylose de ses genoux lui confirma crûment le sentiment de n'être pas plus avancé. Peut-être irait-elle ce soir dans le bois sacré, prier aussi les dieux de Ned, des dieux plus anciens que les sept. À l'extérieur retentissaient des chants d'un tout autre genre. Non loin de la brasserie, le timbre profond de Rimon le rimeur charmait un cercle d'auditeurs par la geste de Lord Deremont à la prairie sanglante. Et là se dressait-il, dernier des dix Dari, l'épée au poing. Brienne s'arrêta pour écouter, voûtée de toute sa carrure et ses gros bras croisés sur la poitrine.